Suisse?
Suisse, c'est un...
J'ai ma double nationalité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, j'ai assez rapidement fait le choix de prendre une seconde nationalité.
D'accord.
En cas de gros problème, de pouvoir un petit peu dégager, ou même en cas de guerre.
Ouais. D'accord.
La guerre du Golfe, j'ai failli partir en Suisse, par exemple.
Ok, d'accord. Non, mais t'es pas...
C'est parti, là, ou pas?
Bah, non, pas encore.
Ah, bon.
D'accord. Bonjour à tous, vous écoutez Le Gratin, ici c'est Yacine. Donc une émission qui va être consacrée à des affiches un peu spéciales puisque c'est des affiches de sécurité. Donc pour en parler, les deux auteurs d'un livre, donc Felder et Ciseau.
Bonjour à tous.
Donc vous les connaissez peut-être plutôt en tant que dessinateurs, graphistes, puisqu'ils ont beaucoup travaillé, ils travaillent encore d'ailleurs pour le journal Ferraille et aussi pour Les Requins Marteaux, donc célèbre éditeur de bande dessinée. Et il y a quelques années, donc, ils ont édité un bouquin qui s'appelle « Trésor de l'Institut National de Recherche et de Sécurité ».
Voilà. Trésor de l'INRS.
Voilà, Trésor de l'INRS. Et donc, bon, on va parler de ce bouquin, on va parler aussi d'une exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Arts et Métiers. Et plus tard dans l'émission aussi, il y aura l'interview de Bernard Schadbeck, donc, qui est un des affichistes qui a travaillé pour ces affiches de sécurité. Mais tout d'abord, on va peut-être parler un petit peu de la genèse du projet. Quand on regarde le bouquin, on se dit que finalement, c'est tout à fait cohérent dans le catalogue des Requins Marteaux, puisque ça ressemble quand même pas mal à des productions que vous avez pu faire. Tout ce qui est fausse pub, fausse annonce presse, enfin, y a tout un travail graphique qui est très proche du travail que vous-même vous avez fait à diverses occasions.
Ouais, en fait, en même temps, c'est proche et j'imagine que c'est proche parce que ça nous ressemble. Et en même temps, c'est un peu éloigné parce que c'est une première dans le catalogue des Requins Marteaux, il me semble.
Oui.
Un livre genre patrimonial, un peu comme ça, qui compile des affiches qui ont été faites dans les années 60 ou 70-80. Ça n'avait pas été fait encore chez les Requins. Voilà.
Oui.
Donc c'est une nouveauté. En même temps, peut-être si tu trouves qu'il y a une cohérence, c'est super, c'est mieux.
Ouais, bon, alors moi, je suis pas du tout d'accord, évidemment.
Vas-y.
Je trouve ça complètement incohérent au catalogue des Requins Marteaux, comme la plupart des choses qui atterrissent chaque année. En fait, la cohérence de ce catalogue, c'est son incohérence, finalement.
En fait, justement, c'est ce que je voulais y venir, mais vous refusez rien, Requin Marteau. Donc, de toute façon, tout est possible.
On n'a pas les moyens de refuser quoi que ce soit. Mais pour être tout à fait honnête, c'est un livre... si on avait pu, avec mon vieux collègue Ciseau, on l'aurait vendu à ta chaîne. Et on s'en serait mis plein les fouilles.
À la base, on voulait le vendre à ta chaîne. Mais voilà. Ta chaîne, elle n'a pas voulu. C'est beaucoup, comme beaucoup de projets qui atterrissent chez Requin Marteau, c'est des projets que personne
que ta chaîne ne veut pas. Donc, concrètement, je pense que oui, c'est une grave erreur de la part des gens de ta chaîne de ne pas avoir pensé à faire ce livre.
En même temps, c'est trop fin pour ta chaîne. Il aurait fallu compiler toutes les affiches de sécurité du monde entier, c'est ce qu'aurait fait ta chaîne. Nous, on est un peu fainéants, donc on s'est limité à la France et à l'INRS.
Mais peut-être que voilà, c'est un appât. Ce livre est un appât pour les éditions ta chaîne qui peuvent nous contacter au 06.
Et donc, alors,
mais il paye pas bien.
Est-ce que on peut raconter un peu comment le projet a atterri chez vous? Enfin, comment vous êtes tombé sur ces affiches et sensibilisé au travail de.
Je vais laisser les talents de conteur de mon collègue s'exercer.
Ah, nostalgie. Eh bien, tout cela commence parmi des montages d'expositions. Vous savez que nous réalisons beaucoup d'expositions avec Ferraille et les Requins Marteaux. Et à chaque fois qu'on met ces expositions en place, eh bien, on se retrouve dans les ateliers techniques des endroits où nous nous trouvons. Donc, en général, ça se fait en France. Et il y avait toujours des affiches de l'INRS. Et alors que nous vissions, rabotions, clouons,
pignons,
et buvions quelques petits cafés, nos regards étaient toujours comme aimantés, attirés par ces affiches. Et puis, je me souviens que les ciseaux... Il me dit quelque chose du genre, ça serait quand même bien de le faire en livre, d'avoir ça en livre, quand même, toutes ces affiches. En observant son regard brillant et humide, je compris immédiatement que Il voulait faire référence à pouvoir consulter toutes ces affiches pour pouvoir s'en resservir, pour pouvoir faire
Il faut dire que
toi-même, tu collectionnes toutes sortes d'imagerie et dont tu te sers dans ton travail. Notamment, je sais que tu collectionnes les BD d'aéroports qu'on trouve dans les avions, que tu trouves tout ce qui est manuel technique, etc.
C'est vrai que j'avais. Enfin, ça m'est un peu passé maintenant parce que je collectionne plus parce que ça m'encombre. Mais c'est vrai que j'aime bien le dessin, enfin, ou
technique.
Ou à caractère informatif, on va dire. C'est-à-dire le truc.
Le logo.
Ça peut être les pictogrammes, les notices d'emploi, enfin, les modes d'emploi, notices. Chaque fois qu'un dessin, ou même plus largement après, les affiches de propagande, enfin, chaque fois qu'un dessin.
T'aimes bien quand souvent dans ce genre de dessin, on essaye d'effacer son style. Enfin, dans les dessins techniques, il y a l'idée d'un petit peu
de ne pas sentir la main humaine.
Exactement, d'évacuer l'auteur.
Oui. Puis il y a une sorte de. Il y a un but très, très précis, très concret, dans lequel il faut être clair, il faut avoir de l'impact. Tous ces trucs. Qu'on peut retrouver ailleurs, mais en même temps, là, dans le dessin informatif ou le dessin technique et tout ça, les modes d'emploi, c'est très. C'est frappant. Donc, je mets bien ça. Donc, pour revenir sur la genèse, pour rectifier, en voyant ces affiches, je me suis dit, elles sont super. Et j'ai cherché s'il y avait des choses qui avaient été publiées sur le truc. Et donc, en fait, on s'est vite aperçu qu'il n'y avait rien de fait autour de ça, ou alors quelques affiches qu'on pouvait retrouver sur le site de l'INRS, justement, qu'on pouvait commander, ces affiches qui sont toujours exploitées dans les usines, tout ça, mais il n'y avait rien sur ce qui avait été fait dans le passé, et qui compilait tout ça. Et donc, effectivement, comme dit mon collègue, je voulais les avoir pour moi, plutôt que d'en acheter à l'INRS, je me suis dit, je vais plutôt le publier. Voilà.
D'accord. Donc, pour être clair, vous vous êtes rendu compte que ces affiches, elles émanaient d'un institut qui s'appelle l'INRS. Ouais. Donc, il faut peut-être expliquer ce que c'est quand même. Ouais.
Quand même. Donc, pour revenir dans ce petit atelier technique. Donc, on regarde l'affiche, on s'approche de plus en plus près, de plus en plus près, de plus en plus près. Et on finit par lire cette petite ligne qui dit que ça fait partie, ces posters sont...
C'est l'Institut National de Recherche et de Sécurité.
Alors là, je me rappelle avoir dit l'Institut National de Recherche et de Sécurité,
qui est une sorte d'organisme qui s'occupe de la prévention pour les risques liés au travail. Quoi. Donc en fait, on a été un peu paresseux sur le coup parce que des affiches de sécurité, il y en a eu d'autres qui ont été faites par toutes les grosses sociétés genre RATP, EDF, tout ça. Mais on s'est contenté d'aller voir l'INRS qui nous a donné accès à leurs fonds. Et donc, du coup, on a regardé ce qu'il y avait et on s'est dit que ça suffisait pour faire un livre. Il ne faut pas le dire, je sais, mais bon, c'est pas grave.
Non, mais ce fonds, il est quand même vraiment intéressant.
Ouais, c'est pas non plus.
C'est pas non plus n'importe quoi. Si ça avait été un peu maigre, vous n'auriez peut-être pas fait le livre.
Ah, voilà, d'ailleurs, ce livre est un vrai, c'est un véritable succès de librairie, il me semble.
Oui, et puis d'ailleurs, en allant à l'INRS, c'est là qu'on s'est aperçu que justement, il y avait une richesse assez incroyable d'affiches, puisque ça démarre dans les années. Fin des années 30, début des années 40. Ou début des années 40.
Ça démarre à la fin de la guerre, en fait. Ouais. À la sortie de la guerre, c'est là que crée l'Institut. Et après.
En 49
Ouais, c'est à la fin de la guerre, c'est créé. Non. Avant, c'était des trucs de privé. Enfin, c'était la responsabilité des sociétés d'éditer de la fiche de sécurité, tout ça. Après, il y a un organisme qui a été créé, c'est celui-là. Ça s'appelait pas INRS à l'époque, ça s'appelait INS, je sais pas quoi.
Et donc, comment ça se passe à l'INRS? Donc, il y a un bureau spécialisé dans la création d'affiches, c'est-à-dire.
À l'époque, ouais. Dans les années 70, il y avait un studio de graphisme, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui étaient salariés. Enfin, Chadbeck te le racontera peut-être quand tu le verras. Ils étaient employés, salariés par l'INRS et ils travaillaient sur la fabrication des affiches. Voilà. Ils étaient, je sais pas, après il y a eu des...
4 ou 5, je crois.
Ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes où ils étaient plus nombreux qu'à d'autres, mais voilà. Et donc ils étaient intégrés à l'INRS. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression plutôt c'est un peu externalisé, quoi, comme beaucoup de choses.
Alors, est-ce qu'on peut décrire un petit peu ces affiches? Peut-être Felder. avec son talent.
Je crois que c'est moi le mieux placé pour décrire les affiches. Bah, alors, ce sont des affiches assez instructives, hein, qui donnent des conseils.
Des petits conseils, des affiches conseils pour pas se blesser.
Voilà, c'est pour faire attention, pour pas se couper les doigts, se couper les cheveux, se crever les yeux.
Mais je suis sûr que la plupart des auditeurs de Radio Campus connaissent ces affiches, peut-être.
Alors il y en a certaines qui me paraissent très connues, comme celle de l'éléphant qui fume une cigarette.
L'éléphant qui fume une cigarette. Il y a l'oiseau qui dit attention à vos yeux.
C'est
une
chouette.
Il y a le poisson.
Le poisson qui
est devant un hameçon avec un petit ver accroché à l'hameçon. Et puis une phrase qui dit réfléchissez avant d'agir.
Oui, parce que ces affiches.
Toujours réfléchir avant d'agir.
Ces affiches, on les trouvait donc dans les ateliers. Parce qu'il y en a qui sont très spécifiques, mais il y a aussi celles qu'on pouvait trouver peut-être dans les centres de santé, des choses comme ça.
Mais même jusque dans les écoles, puisque dans les ateliers de EMT, éducation manuelle technique, eh bien, il y avait ces affiches. Puisque le but, c'est d'apprendre aux gens, salariés ou écoliers, la sécurité. Comment ne pas se blesser.
Non, mais après, du coup, le travail, ça m'a toujours un peu fasciné pour quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le monde du travail, comme moi. Donc, du coup, comment on s'adresse aux ouvriers à différentes époques de l'histoire, c'est intéressant. Il y avait eu des moments dans l'histoire où on s'intéresse, enfin, ça tout le monde le sait, mais on s'adresse à eux un peu comme à des enfants, c'est-à-dire qu'on leur disait de faire attention, qu'il fallait pas.
C'est frappant au début du livre, vous publiez quelques affiches qui datent plutôt des années 50, qui sont dans un style beaucoup plus réaliste, où il y a un ton vraiment culpabilisateur.
Voilà, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est. Moi, j'aime bien en plus, j'aime bien l'idée aussi de montrer des affiches où on voit des gens qui se blessent, qui se font mal, il y a du sang.
On sent qu'il y a des affiches qui sont choisies clairement pour leur qualité graphique ou pour l'humour, certaines. Mmh. Et puis on sent qu'il y a peut-être certaines qui sont choisies un petit peu pour leur petit côté un peu mauvais goût, un peu rigolo, décalé.
Effectivement, quand on a compulsé le catalogue, ce qui restait des archives de l'INRS, il y a des choses complètement improbables. Par exemple, on peut citer le « non concombrez pas les escaliers », qui est un truc avec donc un concombre au milieu d'un escalier.
Et là, un type qui descend l'escalier.
Qui descend l'escalier et il est marqué « non concombrez pas les escaliers », ce qui est quand même assez fort. Je pense que.
Quand vous êtes tombé dessus,
Je me suis dit, c'est génial. On peut pas faire ça aujourd'hui. Enfin, c'est un truc, je sais pas, on en avait discuté préalablement avec toi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça serait impossible de faire un truc comme ça. Mais non concombrez pas les escaliers, je sais pas, c'est super.
Ouais.
Il n'y a rien d'autre à dire. Comment on peut faire un truc pareil?
Radio Campus Paris 93.9. Vous écoutez Le Gratin. Donc là, on vient d'écouter Albert Marker, Tu tapes trop fort. On est toujours en compagnie de Felder et Ciseaux, donc qui travaillent notamment au Requin Marteau. On peut dire ça, hein, vous êtes vraiment lié à la structure, n'est-ce pas?
De plus en plus.
De plus en plus.
Enfin, surtout pour mon collègue. Ouais. On peut le dire. On peut dire.
Oui.
Tu tiens la boîte.
Je suis le, comment on appelle ça, le directeur commercial des Requins Marteau.
D'accord. Ah, c'est toi aussi qui choisis un petit peu les bouquins qui vont se faire. Donc, tu es plus que commercial, artistique.
Non, choisir, ça, c'est quand même c'est assez collégial quand même chez les Requins Marteau. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des rabatteurs, dont Ciseaux fait partie. On rabat des auteurs et puis après, c'est proposé. Il faut vraiment que toute la structure soit vraiment emballée par le projet pour que ça fonctionne, puisque il vaudrait mieux que ce soit des livres passion, vu que ce ne sont pas des livres argent. Donc, ouais.
C'est pas encore ta chaîne, quoi.
Non.
Ok. Un des aspects du bouquin qui est assez amusant et je pense qu'il vous a pas mal intéressé, c'est peut-être son côté humour noir, je dirais. On parle d'amputation, électrocution, brûlure, mort. Enfin, c'est un petit peu, enfin, c'est tout ce qu'on essaye d'éviter, hein, évidemment, dans le bouquin. Mais ça, du coup, vous avez été sensible à cet aspect-là.
Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, de voir des bras coupés, des mecs électrocutés, du sang sur des affiches, surtout lié au travail, pour quelqu'un qui est un peu. Qui a toujours une vision un peu décalée du travail. Moi, j'ai toujours eu une vision un peu. C'est sans doute lié à mon éducation et à ma génération, mais un peu oppressive du travail. Hein. Le travail, ouais. Comme, c'est un peu douloureux. Quoi.
Je croyais que tu allais dire romantique.
Donc, du coup, de voir tout ça, ça me plaît bien. Non, mais en fait, oui, c'est marrant de voir. Enfin, en fait, au départ, le livre, on voulait l'appeler Travail égale danger.
Non, pire, c'était mieux que ça.
C'était quoi, là?
Travail égale mort.
Égale mort, ouais, peut-être. Non, c'était. Enfin, voilà, on voulait l'appeler Travail égale danger. Ça fait un peu vieux slogan anarchiste et tout ça. C'est bon, en fait, je trouvais que l'INRS trouvait ça évidemment trop péjoratif, hein, trop réducteur. Et alors, après, on leur avait proposé le travail, c'est la santé. C'est un bon titre aussi, mais ils n'en ont pas voulu non plus. Donc du coup, le livre s'est appelé Trésor de l'Institut National de l'INRS. Et là, on savait qu'on allait satisfaire.
Ouais. On avait un truc assez vendeur. Que Trésor, ça fait toujours vendre.
Voilà, donc du coup, ouais, tout ça pour dire que ouais, de travail, quand c'est synonyme de danger, je sais pas. Enfin, moi, ça m'amusait.
Pas mal. On est assez d'accord avec ça, en fait. Mm-hmm. Le travail, c'est dangereux quand même.
Ouais, le travail, c'est dangereux.
Ouais.
Ça peut faire mal, très mal.
Ouais, il y a une phrase qui m'a frappé un petit peu dans la préface. C'est alors je crois que c'est le directeur de l'INRS qui l'écrit. C'est l'institut n'oublie pas que les travailleurs sont avant tout des citoyens qui, comme chacun, aiment se distraire. Voilà, donc il y a cette notion un petit peu de fun finalement aussi dans ces affiches. Elle reste très très fun.
Bah, à l'époque, ouais. Je pense que là, celles que j'ai sélectionnées, elles sont fun. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, je trouve. Elles sont pas vraiment fun. C'est un peu dans. Je pense que c'est aussi lié à l'époque, les années 70. C'était une époque qui était un peu plus drôle qu'aujourd'hui, quoi. Donc du coup, on se permettait plus de choses. C'était l'époque Harakiri et compagnie. C'était quand même plus marrant, quoi.
Puis ça vient. Sûrement que M. Schadebeck te le racontera, mais ça vient sûrement du fait aussi que lui, il allait dans les ateliers à une époque et il s'est aperçu que les affiches qui étaient faites avant, c'est-à-dire avec des couleurs assez neutres, les choses comme ça, ça marchait plus parce que les gens, ils étaient toujours dans un univers, dans les bleus, dans les gris, et des choses comme ça. Donc il s'est dit, si je veux attirer un peu l'attention de ces gens-là, comme on dit... là-bas, il vaudrait mieux que je mette des couleurs vives. Et c'est venu de là, d'après ce que j'ai compris.
Et comment vous avez fait la sélection alors?
Alors, du coup, c'était assez marrant parce que quand on est allé les voir, on leur a proposé le projet. Alors, ils nous ont regardé avec des yeux un peu. En même temps, ils nous ont pas regardé avec des yeux bizarres, mais ils ont dit ouais, pourquoi pas. Enfin, ils étaient. Ils savaient pas trop où ils allaient, et puis on les a laissés réfléchir, et puis finalement ils sont revenus vers nous en disant ouais, c'est une bonne idée. Donc du coup ils nous ont, on est allé dans leur bureau, et puis là ils nous ont sorti des petits classeurs dans lesquels ils avaient gardé, parce qu'en fait il y a eu des inondations, des incendies qui ont un peu décimer leurs archives, et donc du coup ils ont plus que des petits
Tu veux dire qu'il y a eu un incendie à l'INRS?
Oui,
c'est plutôt ironique, ça.
Il y a eu une incendie, leurs archives étaient en sous-sol et ça a été inondé.
Il y a eu des trucs, donc du coup ils ont plus que des petites reproductions de leurs affiches que les imprimeurs de l'époque réalisaient. Les imprimeurs faisaient une grande affiche et à côté faisaient une petite affiche. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais enfin.
Pour aller dans les enveloppes que les gens recevaient, les salariés recevaient chez eux.
Ouais, d'accord. Bon, bah, donc du coup, ils n'ont plus que ça. Ils n'ont plus que des petites reproductions comme ça. Donc, en fait, ils nous ont filé ces classeurs et puis on s'est attablé. Puis on a regardé les classeurs, on a noté celle-là, 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 celle-là. Et puis après, on a écrémé, quoi. Et on est arrivé au livre. Mais c'est un travail. Enfin, voilà, après, c'est un travail de sélection subjective parce que ça dépend.
Qu'est-ce qui a été un peu mis de côté ?
Moi, en fait, j'ai sélectionné celle qui me paraissait le plus intéressante au niveau graphique, qui n'était pas forcément celle qui était le plus percutante au niveau message. Enfin, il y avait plusieurs. Enfin, les critères, c'était ceux-là. C'était l'intérêt graphique. La drôlerie, parce qu'il y en a qui sont
très drôles, ouais.
Le côté anachronique ou bizarroïde, enfin quelque chose qui est un peu décalé par rapport à ce que la production générale, quoi. Donc du coup, enfin la production générale des affiches de l'INRS ou du message de prévention et tout ça. Donc du coup, on a sélectionné ces affiches avec ces trois critères, quoi. Et sans doute, c'est après que je m'en suis aperçu, mais il y a sans doute une sélection complètement inconsciente qui fait que les affiches qui ont été sélectionnées sont des affiches quand même qui sont de la fin des années 60, enfin pour la majorité aux 70 à 80, 85, milieu des années 80. Donc du coup, c'est une période assez courte dans l'histoire de l'INRS, mais en même temps, sans doute, c'est celle qui moi, devait me renvoyer à l'imagerie que j'ai pu bouffer quand j'étais enfant et qui, sans doute, reste encore gravée dans ma mémoire et distillée dans mon travail ou dans ce que j'aime, quoi. Voilà.
D'accord. Et effectivement, dans toute cette sélection d'affiches, il y a un nom qui ressort. Évidemment, c'est Bernard Schadbeck. Donc, je vais aller l'interviewer dans quelques jours. Donc, je vous proposerai une interview donc en fin d'émission. Mais comment tu t'es rendu compte qu'il y avait un type qui était un peu meilleur que les autres?
Déjà parce que c'est facile, il signait. C'est un des rares qui signait. Donc déjà, je pense que le fait de signer.
Il avait conscience
quand même qu'il était meilleur que les autres. Et même des fois, celles qui ne sont pas signées, que j'ai sélectionnées, je me suis aperçu que c'était... Enfin, après, quand on m'a donné... Parce qu'il y a eu un travail de recherche de l'INRS pour savoir qui avait fait les affiches, parce que c'était un peu flou. Et donc, du coup, quand on m'a donné les noms, je me suis aperçu que celles que je ne pensais pas être du Schadbeck en étaient, en fait. Donc, voilà, et lui, il est rentré à l'époque dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire début des années 70. Donc, il a fait toute sa carrière... Il en a fait sur la fin aussi, que je n'ai pas sélectionné, parce que je trouvais moins intéressante, mais c'est aussi sans doute à cause de cette vieille nostalgie qui m'habite.
C'est quand même là. Je sais pas comment lui se considère. Je lui poserai la question, ouais. Mais c'est quand même la découverte d'un affichiste qui était totalement en dehors des radars et qui était probablement pas connu des spécialistes. Et on voit que la production est super intéressante super riche au niveau graphique.
Il y a pas mal de gens qui s'intéressaient à son travail. Par contre, il n'est pas du tout connu du grand public. Contrairement au...
Non, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui s'intéressent à son travail. Beaucoup de gens connaissaient ces affiches parce qu'elles ont été diffusées dans plein d'endroits et vues par des millions de gens. Mais je pense que le nom de Bernard Schadbeck, ça ne disait pas grand-chose à...
Il y a quelques gens qui collectionnaient spécifiquement ses affiches à lui, mais... Comment il s'appelle le gars qui faisait les affiches pour Angina, tout ça, qui vient de...
De
Normandie, là.
Ah non, tu vois j'étais à Trouville.
À Trouville, il vient de là.
Il vient de là, ouais, je sais, j'étais.
Tu étais au restaurant où il a fait les affiches.
Oui, j'étais. Mais il a fait les affiches de partout.
Attends, tu parles de Savignac.
On mange très bien dans ce restaurant, déjà, en plus.
Le coiffeur.
Pour, et c'est la même époque et c'est, il est aussi fort que Savignac, je trouve.
Bah, il a un style. Enfin, ce que tu disais, Yacine, c'est qu'il a un style qui est beaucoup plus. Il s'est beaucoup plus diversifié dans son travail que
Savignac. Effectivement, son style est plus dur à cerner. Mmh. Ça m'a fait penser à des Américains comme Saul Bass, Paul Rand, ou alors évidemment à des Français, évidemment, Villemot, Savignac.
Mais il se nourrissait beaucoup quand on a fait l'interview. Là, il nous a dit un petit peu. On lui demandait un peu comment il s'est influencé, etc. Donc, il allait beaucoup au musée. Il adorait les graffitis des années 70 de New York. Enfin, il nous a cité des références qu'on ne voit pas forcément directement dans son travail.
Ouais, ou l'affiche polonaise, tout ça. Il nous a cité,
mais qui explique pourquoi il y a une telle richesse dans son travail.
Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Le Gratin. Donc là, on vient d'écouter Woody Phillips, Dance of the Sugar Plum Fairy. Donc c'est le morceau de Tchaïkovski, pour ceux qui l'ont reconnu. Et c'est fait avec des vrais outils, hein, enclume, perceuse, marteau, scie, etc. Enfin, c'est vraiment un type qui fait de la musique dans son atelier avec quelques instruments. Oui, j'espère qu'il porte des sécurités et des gants pour faire sa musique. Voilà. Et donc il y a eu ce livre il y a quelques années, mais qu'on trouve encore très très facilement, n'est-ce pas ? Pour accompagner le livre, vous avez décidé de faire une exposition ?
Non, mais l'exposition n'a pas été pensée tout de suite, mais c'est en faisant le livre que les choses...
Ouais, c'était là, ça fait partie de la même volonté, c'est-à-dire de montrer ce qui est la richesse de ce qui a été fait à ce moment-là. Donc du coup, de faire une exposition, c'était, ça allait un peu de soi, quoi. C'est-à-dire, on a fait le livre et puis en même temps, après, on s'est dit, bah, comme on avait l'opportunité de le faire parce que ça intéressait l'INRS, donc du coup, on a dit, on va montrer ce qui a été fait. Et puis, comme on voulait l'enrichir...
Alors, il y a un choix que j'ai trouvé bizarre dans l'expo. Tu dis, on a voulu montrer ce qui a été fait, mais pourtant, vous avez décidé de ne pas exposer les affiches originales, enfin, telles qu'elles ont été imprimées à l'époque.
Alors là, je réponds. Objection.
Moi, j'aurais voulu voir les objets initiaux, enfin, comment c'était imprimé à l'époque, à quoi ça ressemblait, quelle taille.
Sauf que le problème, c'est qu'elles n'existent plus.
On peut les retrouver.
Non. Ah, on peut les retrouver. Ah oui, ah oui, on peut les retrouver. Et encore que, attention, on peut les retrouver, mais je pense pas toutes, parce que en fait, tu retrouves toujours les mêmes. Et généralement, celles que tu retrouves sur Internet, tout ça, c'est celles qui sont encore éditées aujourd'hui. Donc du coup, celles qui ont été encore éditées aujourd'hui, moi, j'ai eu le problème, c'est qu'en fait, elles ont été retravaillées par des graphistes d'aujourd'hui à Illustrator.
Donc ils ont rajouté des petits reflets. Donc,
qu'elles sont hyper clean en fait. Elles n'ont plus le traité de l'époque. C'est fait avec des feutres, je sais pas quoi. Donc du coup elles sont pas intéressantes. Elles sont beaucoup moins intéressantes.
Monsieur Yacine, il faut être un petit peu raisonnable. Effectivement, les affiches que nous avions sélectionnées, parce que nous voulions exactement celles qui sont en exposition. On pouvait retrouver des posters d'époque, soit en allant sur Le Bon Coin, que je conseille à tout le monde, parce qu'on trouve de tout et de n'importe quoi. Mais imaginons, on n'aurait pas pu avoir le 100% de ce qu'on recherchait. Donc, on se serait retrouvé dans une situation où on aurait eu des affiches d'époque, puis des trucs reproduits. Donc, dans un souci de cohérence, de ce dont on parlait en début d'émission, il valait mieux tout refaire. Ouais. Et on a tout refait selon les conditions de l'époque. C'est-à-dire que
Et en plus, et pour me permettre, moi qui ai vu des originaux, et des reproductions, je trouve que la reproduction qui a été faite pour l'expo, c'est-à-dire en sérigraphie, apporte un plus parce que les couleurs sont super pétantes, quoi. Alors que sur les reproductions, elles ne sont pas comme ça. Enfin, sur les affiches originales, elles sont beaucoup moins pétantes. Et je trouve que ça rend assez hommage au travail, je trouve. Enfin, je les trouve presque plus jolies comme ça que
les originaux. Et puis, pour enfoncer le clou, si vous me permettez l'expression, ces affiches, on peut les voir généralement dans tous les musées du travail. Il y en a à peu près une dizaine en France. Il y a beaucoup de manifestations aussi sur le travail qui montrent certaines de ces affiches, car il y a des collections privées de gens qui les ont quasiment toutes, mais pas toutes. Donc voilà, c'était pas le but. C'était au contraire, c'était de retrouver un petit peu cette magie du passé.
Donc on peut voir une trentaine d'affiches et on peut aussi voir des affiches que vous avez réalisées vous-même, donc qui sont une sorte d'hommage ou de détournement. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de ces affiches-là ?
Bah oui, donc
décrire et expliquer un petit peu les messages que vous faites passer.
Voilà, l'idée c'était que de présenter des affiches de l'INRS, mais pas que. Donc, parce que du coup, on trouvait ça rigolo de se confronter un petit peu à cet univers et tout ça, et puis d'apporter ce qu'on a l'habitude de faire, une sorte de ton un peu décalé. Et donc du coup on s'est dit on va investir ce champ là et on va produire des affiches qu'on mélangera aux autres affiches de l'INRS, et comme ça le visiteur sera un peu
troublé
et se demandera, parce qu'il y a des affiches qui sont dans le livre qui ont été produites par l'INRS, qui on peut se demander si c'est pas des productions ferraille. Et donc du coup c'était partant de cette idée là on s'est dit on va faire des vraies productions de ferraille qu'on va mélanger aux productions de l'INRS, sauf que ce qu'il en est ressorti, c'est que l'INRS n'a pas voulu qu'on trouble trop leur message, et donc du coup ils nous ont demandé de séparer les affiches les leurs des nôtres. Donc du coup on a trouvé une scénographie adéquate et voilà.
Est-ce que vous pouvez me dire quelques slogans que vous avez illustrés, que vous avez trouvé vous-même,
évidemment. Bien sûr. Alors je vais vous donner quelques-unes qui sont pas dans l'exposition, comme ça ravira vos auditeurs. Donc il y en a une qui s'appelle Je m'immole, je m'isole. Donc c'est un type qui se met le feu et en fait il s'immole et ça fout le feu à l'usine. Du coup l'usine est obligée de s'arrêter. Donc ça cause quelques problèmes de production. Et dans l'image suivante, il s'immole à très très longue distance de l'usine qui peut continuer de fonctionner.
Voilà, on essaie de trouver faire des affiches
qui apportent un commentaire sur
l'actualité, sur les conditions du travail aujourd'hui. Après évidemment avec un ton décalé parce que on n'est pas l'INRS non plus, donc
mais si on était directeur de l'INRS, je pense qu'on ferait ce genre d'affiches.
Ouais. D'ailleurs l'INRS me propose de faire des affiches, je vais aller les voir et je vais leur dire je veux faire des affiches comme ça, si on verra bien.
Alors est-ce qu'on peut en décrire une deuxième?
Bien sûr. Alors il y en a une avec un patron, c'est gros, qui fume un cigare, parce qu'on continue de se le représenter comme ça, et il est pensif, il est presque inquiet, il regarde par la fenêtre, et le slogan c'est ne te blesse pas, il a déjà assez de soucis comme ça. Voilà. Parce que on voulait aussi, c'est toujours pour les ouvriers. Voilà. On voulait un peu rééquilibrer la balance, quoi.
Voilà, y en a une aussi, c'est oreille qui siffle, portez vos protections. Donc, et là, l'image, d'un côté, T'as le mec qui se fait engueuler par son contremaître, donc il a son casque de anti-bruit et il n'entend rien. Et de l'autre, il est chez lui, il se fait engueuler par sa femme. Et là, par contre, il a la cravate autour du cou et il a un bouchon de vin coincé dans l'oreille. Et il est très content parce qu'il n'entend rien non plus. Voilà.
Voilà, et le visage est coupé en deux, donc pour faire une composition symétrique. Voilà. Je voulais parler un petit peu de la scénographie aussi, parce qu'évidemment, il y a un travail là-dessus, sur la scénographie, donc c'est intéressant de l'évoquer.
Mais la scénographie, elle s'est affinée au fur et à mesure des expositions, ouais, parce que je crois que c'est la troisième ou la quatrième. On a fini par trouver le fil conducteur, qui était assez évident, mais qui ne nous est pas apparu tout de suite. C'est d'en faire une exposition dangereuse à visiter, en fait, avec et plein de choses à éviter pour pouvoir la visiter en toute sécurité. Ouais. Donc en fait, la dernière scénographie...
Il y a deux murs qui présentent les affiches et ce sont des murs en bois construits spécialement pour l'occasion. Et donc, on conseille aux visiteurs de ne pas s'appuyer sur le mur pour éviter qu'il ne chute. Et de l'autre côté du mur, on conseille aux visiteurs de ne pas rester trop longtemps derrière le mur pour éviter de se faire écraser. Et il se trouve que le dernier panneau est par terre. Et là, on comprend
qu'est-ce qu'il y a en dessous. Il est tombé. Alors ça, vous le découvrirez en allant aux Arts et Métiers.
Voilà.
Et il y a un autre truc sympa aussi dans l'expo, c'est un présentoir d'objets insolites, donc qui n'existent pas en vrai, qui sont des...
Le vêtement de travail à travers le monde.
Donc, est-ce qu'on peut en décrire un ou deux, histoire de...
Et plus personne ne va aller voir l'expo, après. Bon, peut-être que vous n'allez pas y aller, de toute façon. Donc, ouais.
Ah, vas-y, décris.
Alors, on a les tongs de sécurité qui nous viennent de nos amis brésiliens.
Donc, c'est des tongs avec une coque en acier.
Tout ça, il y en a que j'aime beaucoup. C'est, alors, je crois que ça, il vient du Bangladesh. C'est juste un carré en mousse avec un bout de plastique.
Avec un bout de plastique. On a les fameux bouchons d'oreilles en liège.
En liège.
Des bouchons des bouchons de vin. Pour ça, ce qui nous vient de France. Et
le
on
blouson
a quoi
de,
d'autre
et on le,
a
le, oui, la veste réfléchissante.
La veste haute sécurité. Le gilet haute sécurité. Qui est donc les gilets réfléchissants qu'on oblige tout le monde à mettre aujourd'hui. qui est par contre en peau de mouton. Qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Et c'est tout. Okay. Après, voilà, c'était dans l'idée, c'était parce qu'à la base, on voulait un peu aussi essayer de faire des pièces en volume autour du sujet de la sécurité au travail.
Mais vous avez voulu rendre l'expo plus vivante, en
ouais,
fait.
Ouais, parce que... on voulait s'orienter un peu vers ça aussi.
Alors, au début, on était parti pour faire quelque chose d'institutionnel, très tranquillement, voilà. Juste
Et qu'est-ce qui vous a fait dévier
parce qu'on n'arrive pas, on ne sait jamais s'arrêter.
En
là.
Fait, vous faites des réunions, puis vous dites des conneries, voilà, puis c'est ce qui est le plus intéressant en fin de compte.
Voilà, on essaie de faire des choses qui nous font rire. Et donc, du coup, quand on essaie de faire des choses. Enfin, on sélectionne que les choses qui nous font rire. Alors, des fois, ça ne fait pas toujours rire les autres, mais en même temps, ça ne fait rien.
Comme la sécurité au travail dans les usines de naturistes des années 70 en Suède, par exemple.
Et tu semblais vouloir dire quelque chose qui éventuellement pourrait conclure.
Ouais, non, en fait, c'était
parce que là, on approche de la fin de l'émission.
Ouais, c'était remercier quand même l'INRS et saluer leur courage, même si des fois ils ont été un peu frileux, mais saluer leur courage de nous avoir permis de faire le livre déjà, avec leur collaboration et avec leur soutien. Et leur argent, et d'avoir aussi financé les expositions. Cette exposition et celle d'avant qui voilà donc parce ça n'a pas été sans débat et compromis mais en même temps on arrive quand même à quelque chose de cohérent.
C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez voulu faire quelque chose d'institutionnel mais vous l'avez pas fait, mais de fait c'est quand même quelque chose d'institutionnel puisque c'est financé par une institution donc
il faut croire qu'en vieillissant, en s'approchant de la retraite et bien
ce que je veux dire c'est que vous avez finalement réussi à faire une expo institutionnelle décalée.
Ah mais c'est vrai qu'on est arrivé aux Arts et Métiers quand même.
Ouais. Non, mais oui, voilà, après, on a laissé parler notre nature, mais il s'est trouvé qu'on a quand même réussi à faire passer quelques idées dont on n'a pas à rougir, après, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas une expo complètement libre de contraintes, quoi. Voilà, on a des contraintes qu'il faut respecter. Et puis, on a essayé de s'en accommoder, voilà, c'est ça. J'essaie de s'en accommoder, C'est chez, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on aime bien, qu'on est content de, on est content de ce qu'on a fait, même si
content et contraint.
Content, contraint, ouais, c'est un peu sado.
Ok, eh bien, merci Felder, merci Ciseaux. Donc là, on va écouter donc un morceau de Leroy.
Merci Yacine.
Ouais, merci de nous avoir invités. Donc là, moi aussi, j'aimerais conclure par quelque chose.
Je t'en prie.
J'ai un radiateur en fonte à vendre sur le Bon Coin. Il s'est classé radiateur en fonte sur Paris 20e.
D'accord. À quel nom?
Je peux pas dire le nom, mais ça commence par un F et ça finit par un DR.
D'accord. Donc là, on va écouter un morceau de Leroy Anderson qui s'appelle Sandpaper Ballet. Sandpaper, en anglais, ça veut dire...
Papier de verre.
Exactement. Voilà. Et donc, après cette musique, on va retrouver donc, Bernard Schadbeck, une interview avec lui. Voilà. Merci, messieurs.
Merci.
Merci.
Radio Campus Paris 93.9, donc vous écoutez Le Gratin. Je suis parti à la rencontre de Bernard Schadbeck, l'interviewer et parler de son travail pour l'INRS. Bonjour Bernard Schadbeck.
Bonjour.
Donc vous avez travaillé comme affichiste pendant plusieurs dizaines d'années à l'INRS, donc l'Institut National de Recherche et de Sécurité. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles études vous avez faites avant d'atterrir à l'INRS ?
Bien, je suis diplômé des arts appliqués à l'industrie, qui est une école qui forme, qui à l'époque formait beaucoup de graphistes. Et donc j'ai choisi la branche publicité parce que c'est une branche qui me plaisait bien. Ça m'intéressait de savoir comment on pouvait utiliser la typographie, les formes, la couleur pour dire des choses, pour quel que soit quelles que soient les choses qu'on avait à dire, soit pour la fiche commerciale, soit pour la fiche de sécurité. Comme je suis rentré à l'INRS, j'ai plutôt travaillé sur la fiche de prévention. Mais la fiche de prévention, c'est une affiche qui est à peu près identique à la fiche commerciale. C'est-à-dire que son but, c'est d'essayer de faire modifier le comportement de quelqu'un, de le faire changer d'attitude par rapport à ses habitudes. Enfin, l'affichiste qui fait des affiches commerciales a un avantage sur l'affichiste qui fait des affiches de prévention, parce que ce qu'il a à montrer, c'est des objets ou c'est matériel, alors que la prévention, c'est un concept, et un concept n'a pas de réalité matérielle. D'où la difficulté pour quelqu'un qui fait des affiches de prévention de trouver quelque chose à mettre en forme.
Justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la méthode ? Alors, quelqu'un venait vous voir et vous proposait de faire une affiche sur tel thème. À partir de là, comment vous procédiez ?
Il y avait un cahier des charges. Au début, il y a toujours un cahier des charges qui définit le public à qui on s'adresse, les objectifs de communication que l'on doit mettre en place. Et donc, à partir de ce cahier des charges, que fait-on ? Eh bien, on se documente. Soit on va dans l'entreprise, soit on a des reportages photographiques, soit on a l'aide de techniciens, d'ingénieurs, de médecins, etc., qui nous mettent dans le bain, qui nous mettent dans l'ambiance. Et après ça, ma foi, on essaie de concevoir l'affiche avec plus ou moins de réussite.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fois où vous rendiez dans l'entreprise pour voir les conditions de travail des ouvriers ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je vous dis, si c'est jamais facile de visiter une entreprise parce qu'on gêne la production. Donc, en général, les visites sont souvent simplistes. Mais donc, on peut avoir des reportages photographiques, on peut avoir, je vous dis, l'appui de connaissances venant d'ailleurs, comme la connaissance qu'ont les préventeurs de ce qui se passe dans l'entreprise.
Donc j'imagine qu'à force de visiter des entreprises, vous avez dû en visiter pas mal, et il y a peut-être aussi on acquiert une certaine expérience des choses avec le temps.
Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut faire, et c'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire, c'est d'essayer de m'éloigner de ce qui se passait dans l'entreprise, parce que je pensais que d'essayer de montrer la réalité de ce que vivait l'opérateur, ça me paraissait pas très très intéressant. D'abord parce que l'opérateur, ce qu'il vit, il le sait mieux que moi. Hein. Donc j'essayais de prendre de la distance par rapport à ça pour le faire réfléchir. Je pensais que de lui faire prendre cette distance lui permettait pendant ce temps-là de réfléchir à sa situation, à ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il devait faire. Et d'où le truchement des animaux. Les animaux, c'était des sortes de petits individus qui s'immisçaient dans l'entreprise. C'était assez intéressant parce que les animaux, ça n'a rien à faire dans une entreprise. Donc le choc visuel, à mon sens, devait mieux porter ses fruits. Et ces petits êtres qui s'immisçaient de manière sympathique dans l'entreprise, bien, je pense qu'ils pouvaient mieux faire adhérer au message.
Il y a un autre aspect de votre travail que moi j'aime beaucoup et qui m'a marqué dans le livre, c'est une dimension un peu abstraite, géométrique. En fait, pour illustrer souvent des concepts, vous n'hésitez pas à créer des compositions qui sont oui, vraiment abstraites, géométriques, colorées.
Puisqu'on tourne autour d'un concept, donc effectivement, s'éloigner de la réalité me paraissait intéressant. Mais en fait, cette attitude m'a souvent été reprochée aussi, parce que bien des gens voulaient qu'on montre la réalité quasiment photographique de la situation. Et moi, ça ne me paraissait pas très, très, très intéressant pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure.
Est-ce qu'il y avait un plaisir formaliste, tout simplement, dans ces affiches, le plaisir de dessiner, de jouer avec les couleurs, les formes, la composition ?
Bien sûr, s'il n'y a pas de plaisir, vous ne pouvez pas arriver à votre but. Il faut bien sûr que... D'abord, il faut que vous soyez que vous ayez envie de transmettre le message au type qui va le recevoir. Il faut que vous soyez en adhérence avec lui ou avec eux. Et puis ensuite, je crois qu'il faut que vous vous amusiez pour faire ce que vous avez à faire. Enfin, moi, c'est ma manière à moi de fonctionner. Peut-être que d'autres pensent autrement. Mais moi, j'ai besoin de faire les choses en m'amusant.
Il y avait ces affiches abstraites, donc, comme on a dit, mais il y avait aussi certaines affiches où le matériel de l'entreprise est dessiné. Et on sent quand même qu'il y a une sorte de plaisir de styliser les engins, les appareils. Fin...
Oui, de la même manière que j'essayais de faire des choses qui étaient un peu abstraites, j'essayais de simplifier, simplifier le matériel quand je ne pouvais pas faire autrement que de représenter un matériel. Donc j'essayais de lui donner une allure graphique. J'essayais de le sortir de son contexte. Si par exemple cette machine était verte, je la faisais rouge pour prendre le contre-pied de la réalité.
Alors je sais pas, ça m'évoque une réflexion, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais entre les engins qui sont un peu stylisés de manière à la manière de jouet ou les animaux sympathiques qui rentrent dans le monde de l'entreprise, est-ce que il y a une sorte d'univers un peu enfantin, un peu naïf qui fait partie de votre travail?
Oui, on m'a souvent posé cette question-là. Je ne sais pas si je suis... Peut-être que je suis encore un grand enfant, peut-être que je suis naïf, mais je ne faisais pas ces choses-là par naïveté. Je faisais ces choses-là parce que je pensais que c'était notre tronc commun à tous les hommes. Puisque je pensais qu'il valait mieux prendre la distance dont j'ai parlé au début pour essayer de faire passer mon message... Eh bien, voilà, c'était les éléments de cette distance.
Autre élément pour prendre de la distance, qui est très présent dans vos affiches aussi, c'est l'humour.
Oui, bien sûr. J'essayais de faire en sorte que aussi bien le texte, enfin le verbe et la graphie soit cohérente. Donc si j'étais dans l'humour, il fallait que l'affiche ait vraiment un caractère très humoristique. Parfois il y a des affiches où il n'y a pas d'humour du tout quand même. Il y a des affiches où franchement on est presque un peu dans le drame. À ce moment-là il y avait des couleurs noires qui apparaissaient, enfin il y avait une autre... Elles étaient faites selon un autre style.
Oui, effectivement, il y a certaines affiches ont un côté très logotypique et vous étiez sensible à ce très très graphique.
Oui, je pensais surtout que c'était un univers qui était extrêmement lisible dans le contexte compliqué de l'entreprise. Une entreprise, c'est souvent assez complexe du point de vue de son aménagement, etc. Et les affiches ont du mal. Ont du mal à avoir de la présence à l'intérieur de cet univers. Donc je pensais que plus le message était simple, plus la forme était simple, je pensais que j'avais plus de chances d'être vu et compris rapidement, parce qu'en fait, les opérateurs, je pense qu'ils ne devaient pas porter beaucoup attention à ces affiches. Enfin, il fallait quand même un peu que j'aille les chercher.
Est-ce que certains ouvriers faisaient des détournements des affiches ?
Oui, il y a des affiches qui étaient détournées, oui, tout à fait. Les ouvriers s'amusaient, justement, vraisemblablement, parce qu'elles étaient, un peu conçues comme des espèces de rébus. Je pense que c'était assez facile pour eux de démonter les éléments du rébus pour en constituer un autre.
Ça, vous avez pu l'observer, donc quand vous avez visité certaines entreprises, qu'on avait un petit peu changé votre affiche.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, des fois, c'était amusant. Parfois, ça l'a été moins. Mais de toute façon, moi, ça m'amusait de voir qu'on pouvait les détourner. Ça prouvait de toute façon que les gens en question s'y étaient attachés.
À l'époque, vous regardiez le travail d'autres gens, d'autres graphistes, des Américains, des Français, d'autres gens peut-être.
Bien sûr, je picorais, je regardais tout ce qui pouvait me tomber sur la main, qui venait soit de France, soit de l'étranger. On ne peut pas faire ce métier-là si on ne regarde pas ce qui se passe autour de vous.
Vous pouvez me citer des choses qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être influencé?
Je crois que ma vocation est venue quand j'étais petit. Lorsque je prenais le métro entre mes deux parents et qu'on attendait le métro, et en face de moi, il y avait des grandes affiches. Alors là, il y avait déjà, je ne savais pas à l'époque qui étaient ces noms-là, mais il y avait déjà des Savignac, il y avait des Aurillac, il y avait des Villemot. Et ces grands aplats de couleurs-là, ça m'impressionnait. Et lorsque je rentrais à la maison, je demandais à mes parents des journaux, de la colle, des crayons, des ciseaux. Et je bricolais moi-même des affiches ou des éléments bizarres. Je faisais des montages, je faisais des collages, etc. Et je pense que c'est d'avoir vu ces grandes plages colorées. Ces immenses plages colorées, pour un gamin, quand vous êtes en face d'une affiche qui fait 4 mètres par 3 mètres, c'est un grand truc quand même. Et sur cette affiche, si vous avez un bonhomme qui est quand même qui présente un bocal de cornichons avec un cornichon qui doit faire à peu près 1,50 m de longueur finalement à l'échelle, c'est comme moi, ça m'impressionnait. Et je crois que c'est de là qu'est parti mon amour pour tout ce qui pouvait s'exprimer dans l'espace par l'image. Et après, ma spécialisation pour les affiches. Ça, c'est quelque chose quand même que j'ai dû acquérir très très tôt.
C'est-à-dire que pour vous, l'affiche, c'était vraiment le mode d'expression qui vous convenait, vous pensez ?
Ben, je trouvais que c'était un mode d'expression qui était à la fois simple et rapide. Avec des moyens extrêmement simples, même rudimentaires, vous pouvez faire passer un message. Les affiches que les étudiants ont fait en 1968 le prouvent bien. C'était des affiches en une couleur ou deux couleurs, avec un graphisme très simple, un texte très simple. Elles étaient très très choc, donc elles allaient droit au but. Avec rien, vous dites quelque chose de très très fort. Vous avez beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'impact, et vous, je pense qu'on a, enfin, vous arrivez à emporter des convictions.
Bah, merci Bernard Schadbeck.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était Bernard Schadbeck interviewé chez lui. L'émission s'achève et je vais laisser Felder conclure avec les remerciements d'usage.
Oui, bien tout d'abord quelques petites informations comme retrouver le livre des requins-marteaux, trésor de l'Institut National de Recherche et de Sécurité, dans toutes les bonnes librairies pour une somme équivalente à 24 euros. Vous pourrez également visiter l'exposition d'Angers qui découle de ce même livre aux Arts et Métiers du 21 janvier au 7 septembre 2014. Un grand merci à moi-même, Felder, Ciseau, Lorraine, Marina de Ferraille, à Bernard Schadbeck évidemment, à notre réalisateur chouchou Antoine. Et vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent cette émission sur lesinfos.com.
Merci, bonsoir à tous.